France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Martine Moni, Cindy Le Grumelec, Emmanuel Benito, Xavier Atto et Olivier Dehaye. Voici la deuxième émission de notre série consacrée à Igor Stravinsky, décédé il y a un demi-siècle, le 6 avril 1971, à l'âge de 88 ans. Stravinsky est mort à New York, mais il est enterré, selon ses vœux, à Venise, sur la petite île San Michele, à côté de la tombe de Serge Diaghilev, l'impresario des ballets russes que nous évoquions hier lors de la première émission de cette série sur Stravinsky et la voix. Les premières années de composition étaient évoquées hier, de 1902 à 1914. Aujourd'hui, nous évoquerons la Grande Guerre et le début des années 20 avec l'histoire du soldat, Pulcinella, Mavra et pour finir, les noces. Mais comme promis hier, voici deux orchestrations de Stravinsky réalisées en 1909, deux versions de la chanson de la puce de Méphistophélès dans le Faust de Goethe, la version de Modeste Moussorgski et tout d'abord celle de Beethoven.
Es war einmal ein König, der hat einen großen Floh. Den liebt gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief seinen Schneider, der Schneider kam heran. Da misst Junker Kleider und miss ihm Hosen an. Sammet und in Seide war nun angetan, hatte Bänder auf dem Kleide, hat auch ein Kreuz daran und war sogleich Minister und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herren. Frauen am Hofe, die waren sehr geplagt, die Königin und die Zofe, gestochen und genagt. Und durften sie nicht knicken, und wenn sie jucken nicht, wie knicken untersticken, doch gleich wenn einer sticht. Wir knicken untersticken, doch gleich, wenn einer sticht. Ja, wir knicken untersticken, doch gleich, wenn einer sticht. Ja, wir knicken untersticken, doch gleich, wenn einer sticht. Wenn einer sticht.
Une puce gentille chez un prince logeait. Comme sa propre fille, le brave homme l'aimait. Et l'histoire l'assure, à son tailleur un jour, lui fit prendre mesure pour un habit de cour. L'animal, plein de joie, dès qu'il se vit paré, d'or, de velours, de soie et de croix décorée, fit venir de province ses frères et ses sœurs qui, par ordre du prince, devinrent grands seigneurs. Mais ce qui fut le pire, c'est que les gens de cour, sans en oser rien dire, se grattaient tout le jour. Cruelle politique, quel ennui que cela, quand la puce nous pique, amis, écrasons-la. C'est à Gérard de Nerval que l'on doit cette traduction, adaptation en français d'un poème de Goethe qui apparaît dans la tragédie de Faust. C'est Méphistophélès qui chante cette chanson de la puce Flo Lied, mis en musique par de nombreux compositeurs comme Ludwig van Beethoven dans ce Aus Goethes Faust, ici orchestré par Igor Stravinsky et chanté par Boskovus avec l'orchestre symphonique de la radio de Cologne dirigé par Stefan Blunier. Il s'agit là d'un poème, comme je le disais, qui a été de nombreuses fois mis en musique par Hector Berlioz dans cette traduction de Gérard de Nerval que je viens de lire. Et puis plus tard par Modeste Moussorgski avec une puce en russe, mais c'est toujours le texte de Goethe qui est adapté ici. Et c'est toujours une orchestration d'Igor Stravinsky que je propose d'entendre dans cette partition de Modeste Moussorgski. Je vous rappelle que nous entendions hier un extrait de la Rachmaninova, le chœur final de Moussorgski, déjà orchestré par notre héros de la semaine. Voici cette chanson de la puce de Goethe, version russe, avec Kevin Short, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Marseille, dirigé par Lawrence Foster.
«
opprimiable hage là. Blah-ha,
Kevin Short avec l'Orchestre Philharmonique de Marseille dirigé par Lauren Foster dans cette chanson de Méphistophélès de Goethe, version Modeste Moussorski, une partition pour chant et piano orchestrée par Igor Stravinsky un an après la mort de son maître Nikolaï Rimsky-Korsakov qui lui a appris justement, et il en savait quelque chose, ce Nikolaï Rimsky-Korsakov, la magie, l'orchestration. Il me donnait à orchestrer des pages de partition de piano d'un nouvel opéra qu'il venait d'achever. Quand j'avais orchestré un fragment, il me montrait son instrumentation personnelle du même morceau. Je devais confronter les deux et c'est encore moi qui devais lui expliquer pourquoi lui l'avait orchestré autrement. Dans le cas où je n'y arrivais pas, c'est lui qui me l'expliquait. On peut imaginer avec fascination les échanges entre le jeune Stravinsky et le vieux Rimsky-Korsakov qui a donné ses premiers chefs-d'œuvre que sont Scherzo Fantastique, Feu d'artifice, en attendant les grands ballets des ballets russes des années 1910, L'Oiseau de Feu, Petrouchka, Le Sacre du Printemps. Et puis on peut citer également Le Rossignol qu'on écoutait hier avec sa fameuse marche chinoise. Et puis 1914, la guerre éclate et bien sûr les revenus diminuent pour les musiciens, les moyens sont réduits et Stravinsky compose des petites miniatures comme certaines qu'on a pu entendre hier ou comme celle-ci, des chants russes, tout d'abord sur un canard, ensuite je cite sur un chant dissident. C'est la voix de Daniel Boutillon que nous entendons dans ces deux chants russes d'Igor Stravinsky composés au début de la Grande Guerre.
Thank you.
deux chants russes composés par Igor Stravinsky, où on entend la fascination du compositeur pour l'orchestration, même avec trois instruments, explorant les fascinantes possibilités de modulation entre la guitare, la harpe et la flûte traversière. La guitare ici de Christelle Seri, la harpe de Valery Kafelnikov et la flûte traversière de Mie Ogura, pour accompagner en 1999 au Conservatoire de Paris la soprano Danielle Boutillon dans ses deux chants russes Canard et à l'instant Chant dissident. Nous voici maintenant en 1917 avec l'une des plus célèbres partitions, les plus justement célèbres de Stravinsky, c'est l'histoire du soldat qui a été composée en exil, entre guillemets, en Suisse, entre le canton de Vaud et le Valais. Bien sûr, la situation en France ne permettait plus à ces musiciens de vivre et de faire vivre les ballets russes comme avant. Alors, les Diaghilev et autres Stravinsky s'étaient réfugiés au bord du lac Léman. Diaghilev qui permet à Stravinsky de faire... Pardon, c'est Ernest Ansermé, chef de orchestre qui permet de faire la rencontre avec Charles Ferdinand Ramu, le grand poète et écrivain qu'on a évoqué hier avec Renard. C'était une traduction adaptation en français de Ramu, que ce Renard qu'on écoutait hier. Et c'est un texte de Charles Ferdinand Ramu que Stravinsky met en musique. En tout cas, c'est un texte pour des récitants, un lecteur, un soldat, un diable qui s'inspire de la légende de Faust. Ce soldat qui revient chez lui rencontre le diable et échange son violon contre un livre qui prédit l'avenir. Dans le violon, il y a une petite pièce en bois qui s'appelle l'âme. Tout est dit dans cette partition qui est un des plus beaux exemples de la représentation de Faust dans un monde moderne. C'est en 1917 qu'a été composée cette partition. En 1918, elle a été présentée pour la première fois au Théâtre municipal de Lausanne. La voici avec le récitant Jean Cocteau, le diable de Peter Ustinov, le soldat de Jean-Marie Ferté et la princesse de Anne Antonietti. C'est Igor Markievicz qui dirige cet extrait de l'histoire du soldat de Stravinsky.
Le diable danse. Retenir ses jambes avec ses mains. À terre, épuisé. Le soldat et la princesse tombent de nouveau dans les bras l'un de l'autre.
Pas tant grand, qui les limites franchira, en mon pouvoir tombera. Ne poussez pas plus loin qu'il est permis, sans quoi madame sera forcée de se remettre au lit. Et quand au prince son époux, qu'il sache qu'à présent ma patience est à bout. On les mènera droit en bas, où tout vivant il retirera. Thank you.
pas vouloir ajouter à ce qu'on a ce qu'on avait. On ne peut pas être à la fois qui on est et qui on était. On n'a pas le droit de tout avoir. C'est défendu. Un bonheur et tout le bonheur d'eux, c'est comme s'il n'existait plus. Le trop beau n'est même plus beau. Qui veut plus qu'un n'a que zéro.
Peut-être que ma mère me reconnaîtra cette fois. Elle viendrait habiter avec nous, et comme ça, on aurait tout. J'aurais tout ce que j'avais avant et tout ce que j'ai à présent.
On n'a pas le droit de tout avoir. C'est défendu. Un bonheur est tout le bonheur. Deux, c'est comme s'il n'existait plus. Ils sont partis, ils sont prêts d'arriver. On commence à voir le clocher. Voilà à présent la borne frontière. Elle, elle est restée en arrière. Il l'appelle, il s'est retourné. Le diable surgit devant lui. À nouveau, il s'est emparé du violon. Il joue une marche triomphale. A baisser la terre. Ils se mettent à suivre le diable. Lentement. Lentement. Très lentement.
Un bonheur, tout le bonheur.
Deux, c'est comme s'il n'existait plus. S'arrête un instant.
Thank you.
final de l'histoire du soldat d'Igor Stravinsky et un texte de Charles-Ferdinand Ramu. Nous avions commencé cette émission avec le Faust de Goethe et bien évidemment c'est Faust qui est invoqué et évoqué dans cette partition créée à Lausanne en 1918 et avec un petit effectif instrumental qui devait permettre une tournée en Suisse, mais la grippe espagnole allait tout annuler, ça nous dit quelque chose aujourd'hui. Et nous entendions ici parmi les instrumentistes le trompettiste Maurice André, et oui, le clarinettiste Ulysse de l'Écluse et les violonistes Manoug Parikian avec des récitants qui doivent faire preuve de rythme, comme on l'entendait dans le couplet du Diable avec Peter Ustinov. Jean Cocteau était le récitant principal, Jean-Marie Ferté le soldat et Anne Tognetti la princesse, tout cela dirigé par Igor Markevitch.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Le 15 mai 1920, 6 ans après la création du Rossignol, Stravinsky et Diaghilev reviennent à l'Opéra de Paris avec le ballet Pulcinella. C'est en français Polichinelle, un ballet néoclassique chorégraphié par Léonide Massine, dirigé par Ernest Ansermet, décoré par Pablo Picasso et composé en grande partie en Italie en 1919 par Stravinsky. Stravinsky qui s'est largement inspiré de compositeurs italiens du XVIIIe siècle comme Pergolèse, comme Domenico Gallo ou Alessandro Parisotti, reprenant parfois textuellement certains airs de ses compositeurs. Ici, voici la version de Pulcinella. Pulcinella enregistré par Anna Caterina Antonacci et le ténor Pietro Ballo avec la basse William Schimmel.
Cantando va. fresche frasche cantando va, per la foresta cantando va, cantando va, cantando va. Fresche frasche per la foresta cantando va.
L'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Riccardo Chailly, dans les premières notes de Pulcinella, dans la version intégrale de ce ballet créé en 1920 à l'Opéra de Paris. Pulcinella, ballet avec chant en un acte, d'après Giambattista Pergolesi. Voilà le titre de cette partition. Et en effet, ce que nous entendions à l'instant, chanté par le ténor Pietro Ballo, c'était un air de l'opéra Il Flaminio de Pergolesi, composé en 1735. Mais il y a d'autres compositeurs qui ont été sollicités par Igor Stravinsky en cette partition. Nous allons l'entendre dans la suite, dans un autre extrait de ce Pulcinella, toujours avec le Concertgebouw d'Amsterdam et Riccardo Chailly, et notamment la voix de la soprano Anna Caterina Antonacci. Thank you.
così saporitine, saporitine. Ancor voi mi scippate, voi mi scippate. Restate qua, che se più di ti appresso, se dite di ti appresso, io cesso.
Thank you. Thank you.
Un extrait de Pulcinella d'Igor Stravinsky, créé à l'Opéra de Paris en 1920, ici enregistré par l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigé par Ricardo Chailly, avec le ténor Pietro Ballo, la basse William Schimmel et la soprano Anna Caterina Antonacci, qui chantait à l'instant le célèbre « Sei tu mami » que pendant longtemps on a attribué à Pergolèse. Il semblerait que ce soit plutôt Alessandro Parisotti qui, au 19e siècle, au début du 20e siècle, ayant fait une compilation d'airs de l'époque, aurait peut-être écrit lui-même ce « C'est tout mamie ». En tout cas, c'est une des parties les plus célèbres de cette partition de Stravinsky, Pulcinella.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Pierre Boulez, dirigeant l'ensemble intercontemporain, accompagné la voix de Phyllis Bryn Jolson dans ce Tilimbaum, une chanson d'Igor Stravinsky caractéristique de ces années 1910-1920 avec ses rythmes bondissants et cette inspiration populaire qu'on a retrouvée dans un autre opéra de Stravinsky en 1922. Stravinsky retrouvait l'opéra de Paris après la création de Pulcinella dans Mavra d'après Pushkin sur un livret de Boris Kokhno. Voilà un Boris Kokhno, un écrivain russe qui a été l'amant du compositeur polonais Karol Szymanowski, qui lui a dédié plusieurs pages de littérature. Ensuite, l'amant de Diaghilev, qui en fera d'ailleurs son héritier. Pour la petite histoire, Boris Kokhno sera aussi plus tard l'amant de Cole Porter. Et Diaghilev lui donne à écrire à ce Boris Kokhno un livret d'après Pushkin. C'est Mavra, une comédie paysanne dans laquelle une jeune femme, appelée Parasha, tombe amoureuse d'un hussard. Et pour vivre pleinement leurs amours sous les yeux de la mère de Parasha, eh bien on déguise ce hussard, ce soldat, en soubrette pour le faire embaucher comme domestique à la maison. Et c'est donc cette soubrette qui s'appellera Mavra jusqu'au jour où la vieille mère verra la dite Mavra se raser devant le miroir. Voici le début de cette partition de Stravinsky, Mavra avec l'orchestre symphonique de la radio de Moscou dirigé par Gennady Rojdestvensky.
Thank you. Oh, ворота, не учит Васька, черная работа не справлена. Ты слушаешь меня?
Где взять кухарку?
Где взять кухарку с Вены у соседки? Не знает ли дешевые так редки?
Узнаю,
маменька, сынку теплую уже
не носит сама.
Упая с метелей, когда на улице теплы.
Gennady Rojdestvensky dirigeait l'orchestre symphonique de la radio de Moscou dans les premières notes de Mavra, opéra d'Igor Stravinsky sur un livret de Boris Kokhno d'après Pushkin, avec Ludmila Belogragina dans le rôle de Parasha. Le ténor Nikolai Gutorovitch chantait le hussard et la mère était interprétée par Anna Matyushina.
Arabesque, François-Xavier Chemchak. France Musique.
Et nous arrivons à la dernière partition au programme de cette émission. Ce sont les fameuses noces de Stravinsky composées pendant la Grande Guerre, mais dont l'orchestration ne sera terminée qu'en 1923. Je vis clairement que dans mon œuvre, l'élément vocal, c'est-à-dire soufflé, serait le mieux soutenu par un ensemble composé uniquement d'instruments frappés. Et c'est ainsi que je trouvais ma solution sous la forme d'un orchestre comprenant des pianos, timbales, cloches et xylophones, instruments à son déterminé et d'autre part des tambours de différents timbres et hauteurs, instruments ne donnant pas de notes précise. Voici Noces de Stravinsky dans la version très rustique et formidablement artistique de Musica Eterna, dirigée en 2013 par Theodor Korensis.
Thank you. сына. За камушка смотрела.
Jesus, 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 Jes Hey! Thank you.
C'était Svadebka, les noces d'Igor Stravinsky dans cette extraordinaire version de 2013 de Musica Eterna dirigée par Théodore Kourentsis. Bonjour Agnès Parza.
Bonjour François-Xavier
Chemchak. Ça donne envie de se marier d'entendre ça.
Ah, mais c'est énorme de se marier, d'écouter du Stravinsky, de rencontrer Kourentsis. C'est miraculeux. Dites-moi, demain on continue avec la vocalité selon Igor.
Absolument, toujours dans l'ordre chronologique avec l'entre-deux-guerres, Oedipus Rex avec Michel Piccoli, Colin Davis, la symphonie de psaume par Pierre Boulez ou encore Perséphone avec Nicolas Guéda et André Cloutens.
Vous avez choisi Édipe avec Jean Cocteau.
Mais avec Michel Piccoli, vous allez voir, c'est une très très belle version. Texte de Cocteau, bien sûr, mais le Piccoli fait ça très très bien.
Ah ouais, donc vous n'aurez pas Édipe, mais on l'aura autrement.
Non, autrement.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.